Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Pour cette nouvelle série d'émissions Règlement de compte autour du docteur Dominique Desmichel et de Marie-Christine Loubry, nous avons abordé un compte de manière spontanée, compte que je vous invite à réécouter sur le site de Radio Grand Ciel dans la rubrique Règlement de compte que vous allez pouvoir réentendre en podcast. Ce compte, c'est la peau de phoque, un compte islandais que l'on retrouve également dans tout le nord de l'Europe, en Écosse et dans les pays scandinaves. Ce conte met en scène une selkie, c'est-à-dire une femme phoque, les selkies étant des créatures légendaires que l'on pourrait comparer aux sirènes. Dans le folklore des îles Shetland, les selkies sortent de l'eau la nuit pour se transformer en magnifiques jeunes filles une fois par an, la nuit de la Saint-Jean, et dansent sous la lune. Elles exercent, on s'en doute, un pouvoir de séduction irrésistible. Nous avons laissé notre pêcheur et sa femme phoque chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Le pêcheur a caché la peau de la femme phoque, l'a enfouie dans une malle et va commencer une histoire presque heureuse entre le pêcheur et sa femme. Et vous le dites très joliment, Marie-Christine, qu'ils vont partager la même maison, le même lit et que des enfants vont bientôt naître.
Oui, donc tout a l'air d'aller bien. La vie suit son cours, le pêcheur est heureux, il a une femme, il a un garçon, il a une fille, il a une famille, il a une belle famille, il pêche, tout va bien, mais malgré tout quand même sa femme, elle a toujours cet air triste, cet air un peu mélancolique et qui l'emmène se promener le long de la mer. Donc tout n'est pas si rose.
Docteur Dominique Desmichel, on sent le poids du secret, quelque part, du poids du secret de famille, qui pèse en tout cas sur leur relation.
On sent quelque chose comme ça, et en tout cas, on sent en effet qu'il y a quelque chose qui lui pèse. Et probablement dans le fait qu'elle redescende au bord de la mer, il me semble que ça évoque le fait qu'elle doit savoir sans savoir. C'est-à-dire que il y a quelque chose du côté d'une filiation, mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre d'une déchirure. Il y a quelque chose de l'ordre de ses origines, qu'elle n'ignore pas, mais en même temps, elle sait qu'elle n'est plus une femme phoque. Et elle sait qu'elle s'est, dans une certaine mesure, largement humanisée, puisque, d'une part, elle a rencontré un homme, elle a aimé un homme et elle a eu des enfants avec cet homme. Donc je pense que il y a quelque chose de son histoire qu'elle n'arrive pas à tenir, à contenir, et probablement en tout cas l'affection que son mari lui porte, parce qu'on dit, vous aviez dit, il lui rapporte des cadeaux de la ville, enfin on sent qu'il...
Il est attentif, on pourrait dire c'est un bon mari, quoi.
Voilà. Et en même temps, lui, il va à la ville. On peut penser que peut-être il s'est un peu resocialisé, il est peut-être un peu moins ours qu'avant. Peut-être de temps en temps, il va au bistrot discuter avec ses copains, ou il va au cinoche, enfin, j'en sais rien. Elle, on dit, elle sort peu quand même. Hein.
Elle reste à l'écart.
Oui. Ouais.
Est-ce que, pour expliquer ce malaise, on pourrait faire une lecture sociologique? On a deux personnages qui ne viennent pas du même milieu, tout simplement, peut-être même un qui vient d'un pays étranger, d'un pays exotique, qui se retrouve dans une société qu'elle ne comprend pas.
Oui, je pense qu'on pourrait faire un parallèle, effectivement, de sociologique. On pourrait imaginer, je sais pas, quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier et qui rencontre quelqu'un de la grande bourgeoisie, même s'il y a un grand amour entre les deux. Je pense que ce n'est pas toujours très facile. Il doit y avoir un décalage. Et après, ça peut être aussi des pays différents, des cultures différentes, en fait.
Oui, moi je pense que toutes ces lectures sont possibles. Hein. On sait bien toute la multiplicité de sens, la polysémie, des poèmes comme des contes. Puis alors, il y a quand même quelque chose qui se passe à un certain moment, c'est du côté du garçon. Alors peut-être vous pouvez nous redire ce qui se passe du côté du garçon, là. On ne sait pas trop si c'est l'aîné ou si c'est le deuxième, mais peut-être que ce n'est pas important.
Alors, si c'est l'aîné ou le deuxième, on peut considérer que c'est l'aîné. Oui, c'est l'aîné. Et le garçon, bien sûr, il est intéressé par ce que fait son père. Et puis, dans l'atelier de son père, qui est pêcheur, il y a plein de choses à voir. Et il va farfouiller. Et puis, bien sûr, il va tomber sur le secret, sur la peau qui est cachée. Et... il rapporte pas la peau, mais il rapporte l'information à sa mère.
Et c'est vrai que moi, j'avais assez envie de penser que, vous l'aviez bien précisé, il a 7 ans. Hein. 7 ans, c'est l'âge de raison. Pour moi, l'âge de raison ne correspond pas simplement à une maturité physiologique ou motrice ou intellectuelle, etc. Elle correspond au moment où l'enfant a une vraie représentation du temps. Hein, c'est-à-dire, en gros, il sait parfaitement bien repérer le passé, le présent et le futur. Il a une vraie conscience du temps. Or, la conscience du temps, c'est d'abord et avant tout une conscience de la mort. Hein. Il n'y a pas de conscience du temps tant qu'il n'y a pas de conscience de la mort. Hein. Que ce soit la petite mort des fleurs fanées, c'est d'ailleurs les premières expériences des enfants de la mort, hein, c'est-à-dire... les fleurs sont fanées et ça part à la poubelle. C'est terminé. Ou le hamster, bah, tu sais, il a vécu X années, un hamster, ça ne vit pas comme nous, donc il va mourir, on va l'enterrer au fond du jardin. Donc moi, je vois cet enfant qui s'interroge sur le temps et qui, du coup, s'interroge sur la filiation. Et on peut penser que, justement, même peut-être dans cette analyse sociologique que vous proposez, il sent la filiation... mémoriel, social et tout ce qu'on veut du père, puisque le père, c'est celui qui va au village, donc il appartient à une communauté, il appartient à un collectif. Et puis, j'aurais envie de dire, il interroge, peut-être silencieusement, peut-être verbalement, sa mère, en lui disant « Mais et toi, d'où tu viens ?» Et à ce moment-là, il bute sur le silence de la mère. Il bute sur l'impossibilité pour elle qu'elle a de raconter son histoire. Donc, à mon avis, de l'avoir intériorisé, digéré, malaxé, pétri, et en avoir fait plein de choses, retissé, vous allez voir pourquoi je redis ça après, ceux qui se rappellent du conte peut-être l'anticipent déjà. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, à défaut de pouvoir retourner fouiller dans la mémoire de sa mère, il retourne fouiller dans la mémoire du père. Donc voilà, c'est comme dans les rêves, quand il y a une cuisine, le plus souvent c'est du côté du maternel. Dans les rêves, quand il y a un atelier ou un garage... évidemment, ça fait cliché, vous allez me dire, mais ça fonctionne souvent un peu comme ça, c'est du côté du père. Voilà, donc il retourne dans le lieu mémoriel du père. Et il y retourne à un moment où le père n'est pas là. Le père, il appartient à son collectif, il est au village, ou on ne sait pas trop. Et évidemment, il fouille. Et il trouve ce qu'il trouve. Et j'aime bien que la mère lui dise dans votre texte, tu t'es bien amusé. Tu t'es bien amusé, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait là, moi je ne l'entends pas juste comme quelque chose qui serait au ras de l'objet, mais est-ce que tu as trouvé quelque chose qui serait important pour toi ? Et lui, il lui répond tout de suite, oui, voilà, j'ai trouvé. Et il n'a pas besoin de rapporter l'objet, parce qu'en fait, il n'y a pas d'objet. Il rapporte une mémoire, il rapporte quelque chose qu'il a senti, peut-être dans un de ses rêves, peut-être à cause d'un lapsus du père... ou d'un lapsus de la mère, il a senti quelque chose, et il rapporte ça à sa mère en lui disant « Voilà, mais ça te concerne, et surtout ça me concerne, moi je suis le fils, et j'ai envie de savoir ce qu'il en est de ma filiation. » Comme souvent, d'ailleurs, un peu vers ces âges-là, à l'école, les enseignants proposent de faire un arbre généalogique.
No more enchanted. A child can take this place of ruin and magically enhance it. I see him in a golden room with the book of life before him. Strange instruments upon his chart. Still glow inside him. He is your wonder
C'est un déni de ses origines quelque part, c'est ou d'une manière peut-être beaucoup plus simple, comme on peut le voir un peu partout autour de nous, des gens qui ne sont pas à leur place, qui subissent des événements, qui subissent parfois une relation, un mariage, et qui ont du mal à s'en dépêtrer, que ça soit pour le coup du côté et du masculin et du féminin. Hein, là,
Oui, je pense qu'elle, c'est vrai que c'est flou. Qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle sait, c'est enfoui tout ça, comme si elle avait tourné une page, qu'elle regardait pas en arrière, et que là, avec la peau qui refait surface, et ben le passé, ce qu'elle est, remonte, et ben il va bien falloir qu'elle regarde ce qu'il y a en face d'elle.
Oui.
Mais que jusqu'à présent, je pense que c'était est-ce que c'était une forme d'accommodement? Est-ce que bon, elle avait toujours cette tristesse, mais elle n'était pas malheureuse. Je pense que si elle avait été malheureuse, elle serait partie. Là, c'est un peu une forme d'entre-deux. La vie qui suit son cours comme ça, jusqu'au jour où il y a quelque chose qui saute aux yeux et ben voilà, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, elle dit à un certain moment. Enfin, c'est ce que vous aviez dit. La dernière fois, lors de l'émission précédente, dans le récit du conte, elle dit je préfère ne pas voir. Hein, je préfère ne pas voir.
Voilà, je préfère pas la voir. Je tourne la tête. Quoi.
Oui. En même temps, elle est triste. En même temps, elle reste. Et on voit bien que c'est dans une solitude presque qui serait la symétrique de la solitude du pêcheur qu'elle va se retrouver confrontée à son histoire. Puisque ensuite, son mari lui dit. Viens, on va retourner dans le collectif, on retourne dans le social, on va à la foire. La foire, on pourrait se dire, mais quand tes jeunes femmes dansaient dans la grotte, c'était aussi la foire. Sauf que c'était une foire avec juste des femmes, et il n'y avait pas de masculin et de féminin. Ici, le père part avec les deux enfants, et elle est confrontée à quelque chose, et elle va tenter de retisser quelque chose. D'où l'épisode de la couture, que je trouve tout à fait extraordinaire. Hein. On dit bien retisser son histoire. Hein. Voilà. D'où l'idée aussi d'agencer du cru et du cuit. Là, on va faire un tout petit tour avec Lévi-Strauss, c'est-à-dire elle prend de la farine, des œufs, et puis je ne sais pas trop quoi, enfin autre chose. Et puis elle tente de faire monter la pâte, elle tente de faire quelque chose qui est du cuit, justement, c'est-à-dire d'avoir accès à la culture, et ça ne marche pas. Donc son tissu, comme Pénélope, c'est pas la même histoire, parce que Pénélope, elle attend son Ulysse, hein, elle attend son Odyssée, hein, Ulysse et Odyssée, c'est le même mot, elle attend aussi le retour du masculin et du féminin, elle rate, et elle jette, et elle ouvre la caisse, c'était elle va se confronter à ses origines.
Alors, on avait parlé dans notre précédente émission d'un amour impossible. Docteur Dominique Desmichel et Marie-Christine, la question est à vous deux. Cette impossibilité, elle est en fait de l'ordre de vivre avec une blessure sans la regarder en face, de refouler quelque chose et qui va petit à petit nous grignoter et puis et rendre la vie invivable.
Vous voyez, moi par exemple, si j'avais reçu cette jeune femme et qu'elle m'avait raconté son histoire, elle m'aurait dit voilà ce qui s'est passé, et puis mon fils l'autre jour il est venu me voir et il m'a dit tu sais la maîtresse elle m'a demandé de faire l'arbre généalogique et alors bon alors pour papa il n'y a pas eu de problème et puis pour toi bon tu m'as dit que ton père tu l'avais pas connu et puis que ta mère elle était morte il y a très longtemps mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'enfant vient l'interroger. Comme l'enfant a 7 ans, peut-être une question que je poserai à cette femme, et vous, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous voyez, ça ne m'étonnerait pas qu'elle puisse me dire qu'elle a perdu quelque chose de ce lien filial elle-même quand elle avait 7 ans. Vous voyez, de ces jeux de chronologie, de ces jeux de synchronicité, on pourrait dire, qui font que là, l'histoire se répète.
Oui, possible que l'histoire se soit répétée. Je pense que pour cette femme, c'est qu'elle, c'est pas ce qu'elle est. Elle sait pas si elle est une femme ou un phoque, et elle sait pas à quel monde elle appartient. Et à un moment donné, il faut qu'elle fasse un choix. Mmh. Mais cela dit, par rapport à l'histoire d'amour, je pense que malgré tout, même si elle avait l'air triste, je pense qu'ils ont quand même été heureux, ou du moins je veux le croire. Mmh. Je veux croire que ces années qu'ils ont passées ensemble, ils ont eu des enfants, au fond, ils étaient bien ensemble. Mais le bonheur ne dure pas éternellement.
Oui, je ne sais pas si le bonheur ne dure pas éternellement. Parfois, ça dure, ça se transforme.
Ça se transforme,
voilà. Ça se transforme, hein, le bonheur initial, qui était peut-être une sorte de jeu de projection. En effet, ça ne dure pas et peut-être c'est tant mieux. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand elle retrouve sa peau, hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un affect premier. Hein, elle la serre contre elle. Et il me semble qu'il faut se dire que cette peau, elle reste vivante. Puisque même si elle est très sèche au début, et que cette peau, elle a été gardée dans la mémoire de son mari. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il ne l'a pas mis, il l'a pas mis en dessous du four ou du frigo, c'est-à-dire dans quelque chose qui appartiendrait à une sorte de ventre maternel, par exemple. Il l'a mis dans son coffre à lui. Hein. Donc il a gardé aussi la mémoire de cette femme, il me semble. Et puis on voit bien qu'au fur et à mesure, elle se replonge. Vraiment, moi j'entendais comme un vrai processus de régression, hein, un vrai processus de régression. Elle se replonge dans la mer et au fur et à mesure, elle retrouve cette peau vivante. Et pour moi, elle est dans une régression et elle ne sort pas de sa régression. Parce qu'elle pourrait, c'est le travail moi que je fais avec les analysants, avec les patients, c'est-à-dire il y a ce temps où on va retrouver la puissance vivante, extraordinairement dynamisante, dans la régression d'un rapport au maternel, et éventuellement avec un maternel archaïque, hein, c'est-à-dire quelque chose qui vous secoue les tripes au plus profond des affects et du cœur de chacun. Mais ensuite, on retourne sur Terre. On retourne sur Terre, c'est absolument indispensable. Voilà. Sinon, on ne fait pas son job.
Mmh. Mais peut-être après que sa forme à elle pour retourner sur Terre, elle est dans les enfants. Peut-être que c'est une forme de prolongement. Je ne vois pas comment l'histoire elle pourrait se terminer autrement. Oui. À partir du moment où elle retrouve sa peau, si en effet l'époux l'avait brûlée ou s'en était débarrassé, bon bah là voilà. Mais elle retrouve sa peau ou alors il aurait fallu qu'elle-même elle la brûle. Je ne sais pas, ça me paraît difficile.
Elle retrouve sa peau, elle se retrouve elle-même, elle se redécouvre en même temps.
Non, moi je ne pense pas qu'elle se retrouve elle-même. Non, elle retrouve une trace de son histoire. Mais quand elle est arrivée, elle était sur la plage, elle était adolescente, on va dire, si on a envie de faire des espèces de pseudo-réductions. Évidemment, il faut garder la puissance poétique et pas dire des choses comme ça. Mais elle était adolescente. Elle n'est plus adolescente. Elle est une maman, elle a deux enfants et il faut qu'elle fasse le job.
Alors là, oui, je suis pas tout à fait d'accord, parce que on sent qu'elle est mal à l'aise. Alors qu'est-ce qu'il faut mieux ? Il faut rester mal à l'aise dans sa peau de mère qu'on n'assume pas, ou bien retourner vers les flots ? C'est ça aussi que nous raconte cette histoire. Et il y a beaucoup de gens qui vont en effet faire le sacrifice d'une certaine liberté et puis de quelque chose qui est profond en eux pour vivre selon les conventions sociales et puis et assurer leur job, comme vous dites. Mais ce job, s'il est assuré à contre-cœur, est-ce qu'il est encore assuré? C'est compliqué, ça.
Puis je pense que ce serait aussi une apparence qu'elle se donnerait. Parce que si elle retourne à l'état de phoque, c'est parce qu'elle est un phoque. Et que si elle pourrait jouer à la femme qui s'occupe bien de ses enfants. Mais peut-être qu'à un moment donné, elle a autre chose à faire et qui vaut peut-être mieux que ce soit le pêcheur qui s'occupe de ses enfants, qui s'en occupera bien. Et il n'y a pas beaucoup de choix.
D'ailleurs, la fin est très positive, d'ailleurs.
Oui.
C'est étonnant.
Hein, et dans ces histoires, elle est souvent positive, la fin, parce que il y a un élément chance, comme si le fait d'être allé dans cet autre monde, dans le monde merveilleux, avait apporté aux personnages, aussi bien aux pêcheurs qu'aux enfants, la chance, la prospérité, une vie qui s'écoule assez bien, assez facilement.
Docteur Dominique Demichel, alors que lui conseilleriez-vous à cette patiente
qui veut retourner dans la mer?
Qui veut retourner dans la mer. Moi, je dirais quoi?
Je vois plusieurs niveaux de lecture. Quand on est d'un point de vue strictement intrapsychique pour cette femme, vraiment, Marie-Christine, je vous suis, c'est-à-dire si son vrai processus d'individuation, c'est de retourner à ses origines, là, je vous suis. Voilà. Quitte à ce que ça soit douloureux pour son compagnon ou pour ses enfants. Mais si on le lit sur le plan psychique, elle ne retourne, elle dit pas, il y a quelque chose d'une filiation que je revendique, c'est-à-dire où j'intériorise ma peau et ensuite je l'assume, et éventuellement je vais aller regarder ailleurs s'il y a par exemple des hommes phoques. La solution du côté d'une fidélité peut-être problématique, mais d'une vraie fidélité à son histoire, ça serait « l'autre était un étranger, il me reste un étranger, il faut que je trouve un homme phoque ». Voilà.
Alors, il y a d'autres versions où, en effet, elle retourne dans la mer parce que son mari était un phoque.
Voilà.
Bon. C'est aussi des aspects de ce conte.
Tout à fait. Mais dans un autre point de vue, moi, j'ai envie de l'entendre sur le plan intrapsychique, que cette femme, elle régresse. C'est-à-dire, elle revient à son état antérieur. J'ai envie de dire, non, je veux bien accompagner, moi, cette femme comme ça, mais j'ai envie de garder la valeur du passage de l'état de nature à l'état de culture. C'est-à-dire, ce travail d'individuation. Au fond, elle n'arrive pas à sacrifier son adolescence. Elle n'arrive pas à sacrifier son adolescence. Et elle retourne dans cette image de sirène, de fée, de nymphe, vous aviez dit tout à l'heure, enfin voilà, de ces figures absolument extraordinaires et qui fascinent tant les hommes. Alors que l'homme, vous rappelez, l'homme, il rentre le soir, la maison est toute noire, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qui éclairait la maison? C'est cette femme. Hein, cette femme, elle éclairait la vie de cet homme. On pourra reprendre, si on a le temps, du point de vue que de l'homme, en se disant que ça raconte que l'histoire d'un homme. On va y revenir, voilà. Toujours est-il que c'est ça. Et l'homme, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le tissu par terre, c'est-à-dire l'histoire qui n'a pas pu être tissée. Il voit la fracture du plat. C'est-à-dire, il voit que la femme, elle avait de la nature, les œufs, la farine, elle n'a pas pu en faire quelque chose qui était dans ce passage du cru au cuit, pour reprendre Lévi-Strauss. Elle n'a pas pu dépasser ça. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il ne commence pas à câbler sa femme. Il fait le récit. Il raconte. Et il dit à ses enfants, « Votre mère n'a pas pu vous dire sa filiation, moi je vais vous la dire. » Quitte à ce qu'il puisse rajouter, « Bon, j'ai peut-être pas été clean tout le temps, parce que de temps en temps, mais si je l'entends, moi, dans une vraie fonction séparatrice, où vraiment le prince charmant, il vient aussi sortir du collectif maternel. » On pense à La Belle au bois dormant. Hein. Dans La Belle au bois dormant, c'est ça. C'est-à-dire, la belle, elle se pique, elle a en gros ses premières règles, pour faire un petit peu court, c'est-à-dire elle va passer, et là, tout s'arrête, hop, on appuie sur la touche pause. Et ensuite, il y a le prince qui arrive et qui dit stop, 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 il y en a marre, il faut sortir de là. Et on sort de cet espace d'indifférence. Donc moi, j'ai bien aimé le mot qui, pour moi, est le mot essentiel dans ce conte, c'est l'idée du sacrifice. C'est-à-dire, il me semble que, même si pour le mari, lui, il a pu être enchanté, réenchanté, se resocialiser et devenir fécond, c'est-à-dire de sortir de sa tour d'ivoire, en rencontrant sa partie féminine, en rencontrant son anima, en rencontrant sa belle au bois dormant, avec une vraie fécondité, puisqu'il a ses deux enfants, fécondité psychique, on entend, il y a quelque chose, à mon avis, qui n'est pas clos du côté d'elle, puisque elle n'a pas réussi à faire le sacrifice d'un lien au maternel. C'est pas simplement une filiation, c'est une filiation archaïque et c'est une filiation à dépasser. Voilà, c'est comme ça dans la vie, c'est pénible, mais il y a des choses qu'on est obligé de perdre. Les Freudiens, ils appellent ça castration, les Jungiens, ils appellent ça sacrifice. C'est la même chose, il y a toujours des... Voilà, grandir, c'est toujours perdre un peu, hein.
Nous arrivons à la fin de cette émission et je vais vous laisser bien sûr chacun conclure sur votre vision du conte. Nous avons laissé la femme phoque retourner peut-être à son adolescence, en tout cas à ce monde de rêve et ce monde de magie et d'enchantement qui est la mère et puis sa nature mi-animale, mi-humaine. Marie-Christine, il y a beaucoup de contes qui utilisent ce côté de la peau, des hommes, oui, qui s'habillent en peau, des femmes qui s'habillent avec des peaux d'animal.
Il y a beaucoup d'histoires avec des fiancés animaux, donc ça peut être un homme qui a l'aspect d'un animal ou une femme, comme on l'a vu, qui a l'aspect d'un animal. Et il y a un très beau conte qui s'appelle Peau de serpent, donc c'est une jeune femme qui... enfin, plusieurs jeunes femmes successivement qui vont épouser un serpent et les premières finissent mal. Il y a beaucoup de fiancés animaux et qui revêtent des aspects, je trouve. Il y a aussi une histoire avec un corbeau, une jeune femme qui épouse un corbeau. Et bon, les fins sont différentes. Enfin, c'est très très riche. Qu'est-ce que le côté, oui, humain et animal de l'individu.
J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder des contes comme ça. Docteur Dominique Desmichel, c'est une fin assez négative que vous nous proposez, en tout cas pour la femme.
Oui, oui et non. Oui et non, parce que moi je vais bien dans le sens que vous évoquiez, Marie-Christine, du côté du fait que peut-être pour cette femme c'est son destin. Et au fond, si c'est son destin, on respecte son destin. Hein, voilà. On peut juste regretter, elle, qu'elle n'ait pas pu vraiment faire le sacrifice, il me semble, de sa condition d'adolescente, encore fille de sa mère, dans un collectif de filles où il n'y a pas d'hommes. C'est pour ça que je pense que sa tristesse, je l'entendrai du côté d'une nostalgie. Et il faut se rappeler l'étymologie de nostalgie. Nostalgie, c'est nostos et algie. Alors, algie, tout le monde connaît, névralgie, cervicalgie, lombalgie. Hein. Algie, algos, en grec, ça veut dire la douleur. Et nostos, c'est le retour. Donc la nostalgie, c'est toujours l'idée que le retour en arrière, c'est à la fois délicieux, un petit peu de nostalgie, c'est sympa, mais que globalement, c'est quand même douloureux et avant tout douloureux. Donc, si on pense, ce qui est pour moi une idée fondamentale, à savoir que le conte guérit le mythe, et là je reprendrai ce que vous disiez à propos de Neptune, Poséidon et de Protée, c'est-à-dire que nous, on est nés dans la mer, M-E-R ou M-accent grave, R-E, c'est-à-dire on part de ce maternel sur le plan phylogénétique, mais aussi sur le plan ontogénétique, on pourrait dire, on est obligé de sortir de ce maternel. Et donc, dans cette histoire-là, je dirais, on est presque à la limite du conte, puisqu'il me semble, dans la grande majorité des cas, le conte dit qu'on guérit du mythe, c'est-à-dire il a toujours une dimension, presque toujours une dimension positive, prospective, qui est de dire, quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir. Et peut-être que finalement, ce conte est destiné à toutes ces jeunes femmes encore prises dans un maternel terrible, pour leur dire, peut-être ça va être un petit peu difficile, mais au moins, pendant un temps, vous pourrez peut-être connaître l'amour et avoir des enfants.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Christine.
Merci.
Merci, docteur Dominique Desmichel. À très bientôt.
Merci.